Ça me touche, c'est l'émission qui aborde la vie étudiante. Ici, on parle de tout. De ce qui t'empêche de dormir la nuit, de ce qui te prend la tête, ce que même une soirée au bar ne peut soigner, et de tout ce qu'on oublie, un peu, quand on parle de ce que c'est que d'être étudiant ou étudiante. On passe du stress à la vie sociale, et de la sexualité à l'angoisse, de devenir adulte en passant par l'addiction au café, et de à quel point les verres en boîte, c'est hors de prix. On discute sans langue de bois de nos expériences et nos avis, un peu comme une discussion de fin de soirée que tu penses très philosophique. Ça me touche, c'est le mélange bien dosé de nos propres angoisses, de nos opinions et de beaucoup d'humour. Alors assieds-toi, prends un petit café, ou plutôt une grosse tisane, parce qu'on est là jusqu'à 23h, pour te montrer que nous aussi, on n'endort pas la nuit.
Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur l'émission Ça me touche, l'émission proposée par le média étudiant nantais La Ration sur la vie étudiante, enregistrée et diffusée par Prune. Moi c'est Clara, étudiante en deuxième licence de psychologie, et on est avec Jeanne, étudiante en droit.
Salut.
Et le duo de philosophes Sarah au micro.
Salut.
Et Camille à la Réal.
Salut.
Et dans cette émission, on va partager nos expériences sur la peur de l'échec, l'appréhension et les solutions, s'il y en a. Lol. Donc déjà, pourquoi on a choisi ce thème en première émission, en fait ?
Bah parce que les partiels, c'est dans 4 jours.
Voilà. Pour certains, c'est dans 4 jours. Bientôt, il y en a pour certains, c'est après les vacances, je crois. Mm-hmm. Et voilà quoi, big up à tous les gens qui passent leur partiel en ce moment. Bon, déjà, pour vous, c'est quoi l'échec ? Et est-ce que vous en avez peur ou pas ?
Tu veux commencer ? Je commence.
Comme tu veux, vas-y, je t'en prie.
L'échec. J'avoue, moi, l'échec, j'associe vraiment ça à l'école. Je crois que j'ai jamais réellement associé ça en primaire, des jeux de société ou le loup dans la cour et tout, j'en avais rien à faire. Par contre, dès qu'on parlait de notes, même des dictées en CM1, par contre, là, il y avait une compétition avec moi-même, avec les autres. Et là, j'avais vraiment peur d'avoir une mauvaise note, donc d'échouer.
Un petit début, ouais, de...
Ouais, d'appréhension, quoi.
Dès l'enfance, finalement.
Ouais, c'est horrible.
On est très, très tôt, hein. Bah, écoutez, en fait, ça m'a fait vraiment tilter. Un truc que tu viens de dire, parce qu'on n'avait pas parlé avant, c'est le fait que c'est seulement sur les études. Et en fait, je me suis rendu compte, quand t'as dit ça, que moi, c'était pas que... sur les études. Moi, c'était sur un truc très précis, c'était le sport.
Waouh, ok.
Parce que, alors là, comme ça, on dirait que je suis une meuf qui fait genre du sport en compète et qui a peur de perdre, mais pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait sport de ma vie et je suis extrêmement nulle. Un jour, un médecin m'a dit que j'avais l'endurance de quelqu'un de 80 ans, premier degré.
À quel âge ?
Je sais pas, je devais avoir peut-être 14 ans.
Slay.
Vraiment, waouh. Mais sinon, effectivement... Il y a quand même beaucoup plus ça à l'école. Et personnellement, ça a commencé. Ça a commencé tôt, mais en même temps, j'étais une bonne élève et je bossais pas pour l'être. Donc, en fait, au début, disons que j'avais pas l'occasion d'avoir la peur de l'échec. Mais dès que j'ai commencé à avoir ne serait-ce que quelques échecs, alors là, c'était parti. Mais alors, ouh.
Et toi, Clara ?
Là, en fait, en vous entendant dire ça. Je me rends compte que moi, ça a commencé vraiment à la fin du collège, en troisième, quand j'ai demandé un lycée assez sélectif et que j'ai pas été prise. Premier coup dur de la vie étudiante. Mais après, ouais, le vrai échec, ça a commencé au lycée, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de compétition. Perso, je faisais un bac S à l'époque. Et ouais, fallait absolument gérer pour après, Parcoursup... Et voilà, et bref, on développera sur ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, l'échec, moi, ça a commencé vraiment, vraiment au lycée. Et la fac, c'est un peu, tu joues toute ta vie, quoi. Donc, bon, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez peur de l'échec ?
Ouais, de ouf. Mais en même temps, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que finalement, c'est pas réellement l'échec en soi que je crains. C'est le sentiment que je vais ressentir au moment où je vais me rendre compte que j'ai échoué. Mmh. Et c'est vraiment la période la plus compliquée, c'est vraiment avant de se rendre compte que tu as échoué ou non. C'est l'appréhension plus qu'autre chose, quoi. Donc, genre, je sais pas, il y a un examen que tu passes à un instant T. La peur de l'échec, tu l'as au moment des révisions. Tu l'as au moment où tu stresses, où tu te rends compte que tu es en retard, ou qu'il y a des notions que tu n'as pas, ou que tu ne comprends pas. Tu passes l'examen. Et en fait, moi, une fois que j'ai passé l'examen, bah, c'est bouclé, je m'en fiche, quoi. Et après, j'ai de nouveau le stress quand je sais que je vais recevoir bah, la note ou ouais, l'appréciation de la performance que j'ai donnée à un instant T. Et là, pareil, je vais avoir un petit truc de « Ah mince, j'ai réussi, j'ai pas réussi. » Et puis après, ça passe, quoi.
Ouais, ça commence en anticipant, en fait, ouais. Ton échec.
Ouais, c'est l'anticipation qui me...
Et toi, c'est ça le plus dur ou c'est l'après ?
Non, moi, c'est vraiment l'anticipation. Okay. Parce que j'arrive à rebondir une fois que j'ai échoué.
Okay.
C'est particulier. Mais,
Et pendant l'examen ?
Pendant l'examen, j'y pense pas du tout.
T'es vraiment juste à fond dans ton truc, quoi.
Ouais, je bûche. En fait, je me dis, bah, de toute façon, là, bah, t'as pas le temps, quoi. Enfin, je sais pas vous, à la fac, t'as, je sais pas, t'as 3-4 heures pour composer. Bah, tu te poses pas la question de putain, je connais pas. Enfin, tu te le dis quand tu lis la consigne, mais après, bah, les gens autour de toi, ils bûchent, bah, t'y vas aussi, quoi. Parce que autrement, bah, tu copies blanche.
Faut se débrouiller, quoi. Dans tous les cas, on est là, et puis voilà, quoi, c'est fini.
C'est ça.
Et toi, ça consiste en quoi l'échec pour toi, Clara ?
Qu'est-ce que c'est l'échec ? Bah, en fait, moi, c'est du coup, à l'inverse de Jeanne, c'est plus l'après, en fait. Les conséquences que ça va avoir de rater. Donc, par exemple, ne pas réussir à continuer après ses études. Ou alors, si on va encore plus loin, ne pas, pour les sélections de master, par exemple, ne pas avoir le travail que tu souhaites qui peut t'épanouir, tout ça, tout ça. Donc ouais, moi, c'est plus rater sa vie. Oh, c'est horrible de dire ça comme ça. Non, on va dire des trucs plus joyeux après, mais genre, ouais, rater les choses qui vont venir après, quoi.
Genre, t'as l'impression qu'à un instant T, un échec peut avoir un impact
exactement
sur le reste, genre.
Je mise énormément sur la chose que je fais à un instant précis, sur la suite de ce qui va se passer déjà dans ma tête et avec les autres et bah, dans mon environnement, quoi.
Mais du coup, t'as vraiment l'impression, quand tu fais un examen, que cet examen va être ton downfall, quoi. Ça va être le truc qui va gâcher ta vie.
Totalement. En vrai, oui. Parce que, bon, du coup, je l'ai dit, mais je suis en licence de psycho et, bon, la fac poubelle, elle est un peu compliquée, en fait, hein. La sélection de master, c'est un peu chaud. Et du coup, on te dit tout le temps, ouais, faut que t'aies 15 de moyenne pour tes 3 années, en gros, et après que t'aies fait des stages, machin, machin. Et du coup, ouais, en fait, si tu fais baisser ta moyenne, c'est le stress. Et donc, c'est ça l'échec, quoi.
Ah, ok.
Voilà. Et toi, Sarah, du coup ?
Bah, écoute, en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de vous deux. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai aussi ce truc vraiment, mais pas du tout rationnel, de... je suis en plein examen, enfin pas en plein examen, mais j'ai un examen et j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui va changer toute ma vie après. Alors que très clairement, c'est pas une dissertation ou une explication de texte sur Kant qui va changer mon futur.
Si.
On va pas se le cacher. Enfin, je veux dire, je le sais, on le sait, tu le sais, Clara, toi aussi. Mais il y a ça. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme Clara en fait quand je suis comme Clara, comme Jeanne. Pardon. Je suis un peu comme Jeanne. Une fois que je suis à l'examen, en fait. Je m'en fous complètement. Même devant la porte de l'examen, je m'en fous complètement. C'est vraiment au moment où je révise, quoi. C'est quand, en fait, je sens que je peux encore faire quelque chose pour avoir une bonne note et pour pas échouer. En fait, je crois que c'est le fait que je sois responsable de mes notes et de mon avenir qui fait la peur de l'échec, quoi.
Exactement pareil.
Ok. Et du coup, par rapport à ça, on va écouter un témoignage d'Elias, qui est un étudiant en philosophie, et il va nous donner, bah, pareil, son expérience de l'échec.
Vas-y, présente-toi.
Je suis étudiant en master de philosophie à Nantes et j'ai 22 ans.
Est-ce que tu as déjà connu une situation d'échec ?
J'ai envie de répondre non directement, mais en fait oui, tellement ça a été mon quotidien. Dans la mesure où j'étais un cancre toute ma scolarité, de ma sixième jusqu'à ma terminale, j'ai été absolument le dernier de la classe en fait à chaque fois. Ce qui fait que j'ai développé une sorte de balécoïsme aigu aux mauvaises notes, une sorte d'anesthésie généralisée qui a pris tout mon âme. Et l'angoisse a commencé à venir un peu plus tard quand j'ai commencé à réussir à rentrer à la fac, à avoir des bonnes notes, à valider mes cours, etc. Et que les gens commencent à changer leur regard sur moi. Et elle me portait du coup beaucoup d'espoir. Si bien que maintenant mes parents pensent que je suis un bon élève. Alors que c'est pas encore ça. Je crois que j'ai encore gardé un peu cette espèce d'anesthésie que j'ai gagnée avec mes jeunes années. Parce que au final, les notes, je m'en fous toujours un peu. Tant que je valide finalement, ça me va. Après, quand j'ai bonnes notes, je suis content. quand j'ai les sales notes, je suis un peu moins content. Mais ça ruine pas ma nuit, hein, je dors toujours aussi bien la nuit.
Et est-ce que du coup, tu as un conseil maintenant à donner à ceux qui sont...
Donc on a étudié le témoignage d'un étudiant en philo. Et c'est hyper drôle parce qu'on n'a absolument pas les mêmes profils. Apparemment, lui, c'était un mauvais élève, collège-lycée. Moi, c'était totalement l'inverse. Et c'est un peu chiant parce que bon élève, mauvais élève, il l'a vraiment bien souligné. C'est vraiment une étiquette qu'on te colle sur le front et oui. qui te colle à la peau, en fait. Bon, le front, la peau. Et moi, c'était pareil. Donc, en fait, rapidement, c'est une pression extérieure qui a fait que j'avais envie de maintenir cette étiquette. Genre le fameux « Ah, mais toi, de toute façon, t'es une bonne élève. T'as pas à stresser. T'as pas à te poser la question si tu vas réussir à avoir ton bac ou pas. » Alors que si, tu stresses quand même. Et en fait, cette étiquette que les gens m'ont collée sur moi, finalement, elle a muté. Et maintenant, c'est une pression que j'ai envers moi-même. Genre mes darons, ma famille, mes potes, personne n'en a rien à faire en fait, de savoir si je réussis ou pas mes études. Parce qu'en fait, c'est acté pour eux que je suis une bonne élève, ça va le faire. Genre, j'ai pas de questions à me poser. Et maintenant, je veux continuellement avoir cette validation académique et avoir un retour de l'école en mode « Oui, tu es bien cette bonne élève, t'as pas de stress à avoir, ça va couler pour toi. » quoi.
Et du coup, c'est ça qui te crée la pression maintenant, c'est pas les autres, c'est toi par rapport à ce qu'on t'avait dit avant.
Exactement, j'ai envie de maintenir cette image que les gens ont de moi finalement.
Mm-hmm. Et parce que maintenant, plus personne te dit « Aie des bonnes notes », ce genre de choses en fait. Finalement, au bout d'un moment, t'intègres juste... Et puis en fait, est-ce qu'au fond, t'as pas intégré juste ce que tu pensais que les autres voulaient de toi et pas vraiment ce qu'ils t'ont dit, tu vois?
Exactement, c'est ça. Et ce qui est horrible, c'est que tu passes ton temps, enfin après je parle pour moi, j'en sais rien, mais du coup maintenant, alors qu'avant j'en doutais pas, je doute, est-ce que je suis réellement une bonne élève? Bon, après là ça c'est le syndrome de l'imposteur, mais ouais. À chaque fois que je reçois une bonne note ou une mauvaise note, enfin peu importe, ou même qu'on me félicite, je me dis mais non, genre,
est-ce que je la mérite?
Ah de ouf.
Est-ce que vraiment... c'est pas finalement encore de la chance?
Tout le temps. C'est le sujet que j'avais révisé.
Ah non mais oui, vraiment. Bah écoute, personnellement, alors j'ai un peu eu ce truc de l'étiquette, mais un peu différemment de toi. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours été une très bonne élève, très bonne note, tout ça, mais j'en foutais pas une. Donc vraiment, j'étais à la fois la branleuse, et à la fois, on n'attendait jamais de moi que j'ai une mauvaise note. On attendait que j'ai une bonne note, mais en même temps, de toute façon, si j'ai une mauvaise note, comme je suis une branleuse, c'est normal aussi. Mais par contre, donc ça c'était plutôt à l'école. Par contre, dans ma famille, alors faut savoir que mes parents ne m'ont jamais mis la pression sur les notes. C'est-à-dire que moi, j'arrivais chez ma mère, je lui annonçais un 0 comme je lui annonçais un 15. Alors vraiment, ma mère, elle s'en foutait complètement.
La chance,
quoi.
Ouais.
Beaucoup de chance sur ça. Je pense que j'ai beaucoup de chance sur plein de points avec ma famille, mais surtout sur les notes. Enfin, je veux dire, ma mère, elle savait très bien. Elle me disait, écoute, ce sera mieux la prochaine fois. Enfin, fais ta vie, quoi. Mais par contre, c'est pour dire que mes parents ne m'ont pas mis de pression de manière consciente, en fait. C'était juste un peu comme Jeanne, en fait. Je pense qu'il y a un truc de « c'est ce que je pense que les gens veulent que je sois ». Ou en fait, finalement, moi, j'ai un grand frère. On a 11 ans d'écart. Et mon frère, à l'école, ça n'a jamais été son truc. Je peux dire avec toute honnêteté que mon grand frère, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse et que j'ai dans ma vie. Mais les études, ça n'a jamais été facile pour lui, alors que moi, j'avais énormément de facilité. Et du coup, il y a toujours ce truc où, en fait, Sarah, c'était celle qui allait faire des études. Il n'y a aucun moment, mes parents se sont dit que je n'allais pas faire d'études supérieures. Et elle va avoir son brevet, elle va avoir son bac. Enfin, je veux dire, ça ne sera jamais autrement. Je crois que dans le fond, mes parents, ils étaient tellement heureux quand mon frère a eu son brevet, son bac et tout. Et après, quand moi, je l'ai eu, c'était en mode... en même temps, elle a toujours eu des bonnes notes. Et comme je dis, mes parents ne m'ont jamais dit clairement... Ouais, c'est toi qui dois rattraper les difficultés de ton frère ou quoi. Parce qu'en plus, ils sont très très fiers de mon frère. Il est super. Mais il est super. C'est-à-dire que même maintenant, il a réussi dans sa vie.
Big up à lui.
Big up à Nicolas, mon grand frère, qui a super bien réussi ce qu'il voulait faire. Mais c'était comme juste une image qui était normale. Il fallait que Sarah, elle soit comme ça. Et en fait, personne ne me foutait la pression, mais un peu comme Clara. En fait, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que je pense que je suis un peu dans le même cas. Où finalement, en fait, t'attends des autres... Enfin, les autres attendent rien de toi, mais juste tu pars du principe que c'est comme ça qu'il faut que tu gardes cette image qu'ils ont de toi, alors qu'ils t'ont rien demandé, quoi.
Oui.
Moi, je voulais dire un truc par rapport au témoignage qu'on a eu. En gros, il parle du fait qu'il était un cancre, parce qu'on le voyait comme ça, et que le changement... Il y a eu un changement du regard des autres par rapport à lui-même. Du lycée par rapport à la fac, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai que sans être sans avoir été le cancre au lycée, il y a tellement ce truc-là aussi. Là, je vais sur une note un peu positive. Mais je trouve qu'à la fac, tu as des personnes qui sont plus en phase avec toi. Et du coup, ça peut aussi t'aider aussi par rapport à surmonter des échecs ou même du coup, voir autrement les échecs, tu vois. Parce que là, au lycée, par exemple, ça va être de la compétition avec des gens. Tu as été mis dans leur classe comme ça, au pif. Et voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça.
Ça me touche, c'est l'émission qui parle de nous comme de vous, de notre quotidien comme du vôtre, de ce qui nous prend la tête et prend la vôtre.
Du coup, pour l'instant, on n'a pas trop parlé encore de la compétition avec les autres. Vous pensez que ça joue vraiment dans la peur de l'échec? Toi, Clara, par exemple, comme tu as été en médecine en plus.
Ouais, bah déjà, bon, pour expliquer le truc, après le lycée, j'ai fait la PASS, donc la première année de médecine, que je n'ai pas eu de peu. Et la deuxième année, je l'ai retentée, sauf qu'avec la réforme, on avait un nouveau système qui était... Du coup, je pense que les gens, ils doivent connaître maintenant, je ne sais pas trop. Mais en gros, tu rates ta première année, du coup, tu vas dans une des licences en reprenant certains cours de médecine. Par exemple, moi, j'étais en sociologie, en L2, et je faisais des cours de médecine à côté, bref. Et du coup, j'ai re-raté. Du coup, je suis allée en psycho après. Et c'était quoi ta question?
À quel point la compétition avec les autres, ça jouait dans ta peur de l'échec?
Ah, mais là, c'était juste le point central de l'échec, en fait. C'est un classement. Donc, si t'es pas dans les 100 premiers, bah, c'est un échec. Tu rates, that's all.
Voilà. Mais est-ce que tu penses que même, par exemple, là, t'es en psycho, donc il n'y a pas de classement?
Mais c'est à peu près la même chose, mais juste...
C'est ça ma question. Est-ce que finalement, ça joue pareil, alors que pourtant, c'est pas du classement?
J'ai envie de dire, c'est pire. Parce que en médecine, on te dit, c'est de la compétition, faut que tu gères... Pendant un an, tu taffes à fond, t'es dans la galère, tu vois pas tes potes, tu travailles 10 heures par jour. En psycho, on te dit juste, ouais, déjà, les gens autour de toi font, ouais, c'est la fac poubelle. Je suis désolée, je leur dis, mais genre, c'est trop un truc que j'ai entendu. Genre, tu sais, la fac, la licence, tu vas dedans parce que tu sais pas quoi faire. Alors que la suite, c'est des masters, mais ultra sélectifs, en fait. Et là, on te dit pas que c'est sélectif, on te dit pas que va falloir charbonner, en fait. On te dit pas comment faut travailler aussi, parce que en médecine, par exemple, t'as le tutorat, donc c'est des étudiants qui t'aident, t'as encore un enfant en médecine, tu vois, on s'occupe de toi. En psycho, c'est juste, bah, tu vas galérer, tu vas pas réussir et on te laisse toute seule. Et voilà. Et du coup, là, la compétition, elle est beaucoup plus... elle est clairement implicite, en fait. Et je pense, je sais pas trop si les gens entre eux, ils ressentent de la compétition. Perso, moi, je la ressens. Parce que déjà, la médecine, avant, fait que je suis encore dans cet état d'esprit-là. Et que bah, c'est en vrai ma dernière chance. La psycho, pour moi, j'abuse, mais pour moi, c'est les deux métiers que je voulais faire, genre psychologue ou médecin. Et du coup, là, c'est un peu la dernière étape. Et si je la loupe, bah, voilà, big échec, quoi.
Mais t'as réussi ou pas après, du coup? Deux échecs du concours de médecine, pardon, à te dire, c'est pas une fin en soi, j'ai un autre plan, j'y vais.
Alors complètement, en vrai, mais ça c'est pour tout le monde, vraiment, même vous les filles, enfin genre les gens qui nous écoutent, mais ouais, y a toujours une solution après quoi. Sauf que dans l'état actuel des choses, moi j'ai envie de faire tel truc, si je le rate, bah ça va faire mal pendant une durée quoi, tu vois. Mais en vrai, oui, il y a toujours des solutions. On est toujours intéressé par plein de choses dans la vie. On fait des activités, on s'ouvre, on vieillit. Je sais pas, on rencontre des gens qui vont nous faire découvrir d'autres trucs. Mais ouais, non, je sais plus c'était quoi la question.
Je crois que c'est dur d'accepter ça, hein, quand t'es jeune. De te dire qu'il y a encore plein de portes, en fait. Parce que là, tu vois, après, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Moi, mon couloir, il n'y a pas de porte dedans. Hein. Ou alors, il y a très, très peu de portes et elles sont bien fermées à clé.
Est-ce que toi, tu veux faire quoi après?
Moi, je ne sais pas ce que je vais faire après. Ouais, c'est ça le problème. Tu vois, genre, j'ai des idées. J'ai toujours eu un peu des idées de ce que j'aimais faire et tout. Mais après, vas-y, trouver un travail exactement ce que je voudrais, tu vois. Je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai l'impression que jamais j'aurai des opportunités, tu vois, que je n'imagine pas maintenant. Tu vois, alors que je sais personnellement qu'on a tous un moment dans notre vie des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais je crois qu'à notre âge, à ce moment-là dans les études, c'est impossible de vraiment genre, mettre ton esprit autour de ça, tu vois, genre vraiment accepter cette idée-là. Tu vois, genre c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose, c'est de le sentir, vraiment, genre de vraiment l'intégrer dans ton corps, dans ton esprit, tu vois.
Et encore, je pense qu'on est, je sais pas en vrai, mais j'ai l'impression qu'on est quand même une des générations les plus chanceuses là-dessus, dans le sens où on suit pas un chemin ultra précis, déterminé, juste après le lycée, et comme nos parents peut-être, ou grands-parents...
Mais là-dessus, je me suis souvent posé la question, parce que j'en ai parlé avec mon grand-père vraiment il y a 24 heures.
Ah. Wow. Vive les grands-parents.
On est vraiment sur un truc fraîche.
Ouais, vraiment très frais. Justement, mon grand-père m'a dit ça. Ils n'avaient pas à se poser de questions. Donc, mine de rien, tu te mets dans une formation. C'était sans doute plus dur. Enfin, plus dur, je dis académiquement, j'en sais rien. J'étais pas née, j'étais même pas une idée, mais bon, bref. ils n'avaient pas à se poser de questions et juste ils faisaient, alors que nous, on a tellement de possibilités. Je ne dis pas que c'est horrible, c'est une super chance qu'on a de pouvoir se réorienter, que de pouvoir redoubler, que de pouvoir... Ouais. Sauf que, en fait, ça fait tellement d'options qu'en fait, c'est hyper stressant, c'est hyper anxiogène.
On est du père, quoi. Non, mais faut le dire.
Vraiment, faut le dire. Oui,
c'est en fait, je crois que la liberté qu'on a gagnée, elle nous tue, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, de savoir qu'en soi, tu pourrais faire n'importe quoi. Quand tu te dis, mais waouh!
Le luxe du choix.
T'as cette entièreté devant toi. Tu vas dire que parce que j'avais pas du tout pensé à le dire dans cet épisode, et là on est en train d'en parler. C'est un truc qui m'angoisse tellement, cette idée de.
Le choix.
Ouais.
Ouais.
Le choix de me dire, vas-y, je pourrais être mes 10 000 trucs, quoi. Ah. Que j'ai un tatouage relié à ça. que j'ai fait cette année, en fait, à mon anniversaire. Donc vraiment, à quel point ça me matrixe, ce truc-là.
Tu peux nous dire, c'est quoi ton tatouage? Ou pas?
Oula, ça reset,
non? Enfin, ok, donc
c'est juste okay.
un épisode exprès sur le tatouage de Sarah.
Exactement. Sera prévu, ouais. Épisode bonus sur le tatouage de Sarah. Non, en fait, c'est une figue qui ressemble pas du tout à une figue. Je peux vous montrer. On le verra pas à l'émission, mais je peux le montrer aux filles.
Elle est trop mignonne.
Et en fait, ça vient d'une métaphore d'un bouquin de Sylvia Plath.
Voilà. Madame.
Où en fait, elle est devant un arbre, un figuier, et puis toutes les figues, elles présentent un peu, tu sais, toutes les vies que tu peux avoir. Et au bout d'un moment, elle reste tellement pétrifiée longtemps devant le figuier.
Qu'elle devient une figue elle-même.
Non. Que les figues tombent. Et en fait, c'est toutes les opportunités qu'après, elle n'a pas prises.
Aïe, qu'elle restait là à se dire, je prends laquelle?
Parce qu'elle est pétrifiée à se dire, vas-y, je prends laquelle, quoi. Parce que tout est incroyable.
Ok. Bah alors, les gars, rebondissez sur vos échecs et vos choix de vie, s'il vous plaît. Voilà. Et ouais, d'ailleurs, je rebondis par rapport au tatouage encore une fois, mais le choix, enfin nos choix aussi, ils peuvent être grave dépendants de causes extérieures, or juste la fac et nous-mêmes, et donc l'échec aussi, quoi.
Non, mais carrément.
C'est archi vrai. Et genre, j'ai eu une expérience vraiment plus que récente, de moins d'un mois, sur un échec dû à des causes extérieures. Alors que je dis ça, ma vie est vraiment. Enfin, je suis archi chanceuse, j'ai une famille aimante, j'ai aucune difficulté dans ma vie. J'ai plein d'autres opportunités de petites figues dans ma vie et j'arrive à goûter plusieurs figues en même temps, c'est trop cool. Mais ouais, j'ai eu une expérience pas hyper cool. Déjà, donc moi je suis étudiante en droit, je me plais pas de ouf dans mes études. Je suis en deuxième année, donc pour les étudiantes en droit, la deuxième année, c'est pas la plus simple. Donc je l'ai entendu et maintenant je le vis et je l'affirme, c'est pas la plus simple. Et cet été, j'ai pas eu de vacances comme la plupart des étudiants, j'ai travaillé pendant 3 mois, donc... fin des partiels, tu travailles, tu rentres à la fac, t'as pas eu de vacances en fait.
Il y en a tellement plein dans ton cas.
Ouais, genre, vraiment, c'est pour ça que je le souligne. C'est genre, si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes épuisé le 1er septembre, j'oublie des lettres, vous êtes pas tout seul, toute seule. Genre vraiment, j'empathie de ouf, on est ensemble et genre, vous êtes juste des bâtons.
Ouais, vraiment. Genre, vraiment. Moi, je suis saisonnière aussi et je peux dire que le premier semestre, il m'a fait mal. Hein.
Ah, j'ai pensé tout le mois de septembre. Voilà.
Mais... ouais, organisez-vous. Enfin, je dis ça pour moi aussi, hein, parce que la même. Mais organisez-vous une semaine de dodo. Hein. Enfin, je sais, c'est trop facile de dire ça, mais un moment, faut dormir, les gars. Parce que sinon, le S1, enfin le semestre, le premier semestre, il fait mal.
Tu le sens passer, tu le sens passer.
Ah, mais je l'ai compris après, moi, après ma saison cet été. Hein, je me suis dit, tu sais, moi, je suis rentrée, j'avais plein de trucs à faire. Bah, il y avait le podcast que je commençais à préparer avec les filles, et j'ai direct tout fait.
Et après, c'était la rentrée, j'ai fait genre, mais attends, mais là, je m'endors, là. C'est fou, là, c'est ce qui se passe.
C'est pour quand les vacances, du coup? Ah, on en sort. Ok. Bref, du coup, j'avais cette appréhension de la fameuse L2. J'ai dû vivre cette fameuse L2. Et puis après, j'ai eu le mois de novembre de la mort, comme je l'appelle, où j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui ont fait que j'étais dans les pires conditions pour passer des examens. En droit, on a des galops d'essai. Donc, c'est des examens de mi-semestre, donc des partiels blancs, qui sont vraiment très, très stressants parce que c'est les premières réponses que tu as de tes efforts, finalement. Sauf que efforts que j'ai fournis tout le mois d'octobre parce que bah, j'ai voulu enchaîner, quoi. J'ai voulu enchaîner après ma saison, après un mois de septembre où je pionçais, mais en même temps, bah, je bûchais. Et au mois de novembre, ça s'est cassé la gueule. Je me suis séparée de mon copain avec qui je me suis remis. J'ai commencé une thérapie. J'ai appris que j'étais enceinte et j'ai avorté. Et entre-temps, bah, j'ai passé mes galops d'essai. Voilà, j'ai eu mes notes. Vraiment, bah, j'ai pas la moyenne, j'ai rien. Donc là, je pars au partiel.
Waouh.
Bon, en vrai, bah, ça va, il y a pire. Hein. Mais bref, histoire de dire que des fois, t'as des causes extérieures. Et là, pour le coup.
T'as eu tout en même temps, là.
J'ai eu tout en même temps, mais en même temps, je me suis jamais dit. Enfin, je disais, je vais échouer avant de passer les examens, au moment de les passer, après les avoir passés. Je me justifiais auprès de tout le monde. Mais en fait, je me justifiais auprès de moi-même, quoi, parce que je savais que j'allais me prendre une énorme claque. Et là, j'ai reçu mes résultats de partiel blanc en début de semaine. Bah, je suis celle de mon entourage qui a le mieux géré la réception des notes, parce qu'en fait, on s'est tous cassé la gueule.
Ouais.
Mais justement, vu que moi, j'avais plus ou moins cette excuse de j'étais dans les pires circonstances pour passer des examens, bah, je suis en mode, bah, en vrai, j'ai d'être ça. Genre, voilà.
En fait, je crois que c'est un peu traître, ce truc de c'est des causes extérieures. Parce que d'un côté, tu peux dire, ok, c'est pas moi le problème. Mais en même temps, t'as aucune main sur le problème, c'est puisqu'il est absolument extérieur. Du coup, t'as un truc où tu te sens complètement démuni. Et en même temps, il y a un truc où tu peux te dire, mais
c'est pas moi, hein.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a vraiment une dualité du truc, quoi.
Ouais, ça peut très vite devenir une excuse, quoi, on va dire.
Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à un échec à cause d'une cause extérieure?
Bah, en fait, c'est assez fou. Parce que moi aussi, c'est extrêmement récent. Et c'est aussi lié à la saison.
Ça va, les jumelles ou
non? Ah mais vraiment, on a trop de points communs, par contre.
Trop de points communs, en fait. Non, mais vraiment, enfin, c'est... En fait, cet été, j'ai eu des gros problèmes de santé. Santé mentale et physique. En fait, la santé mentale a influencé ma santé physique, plutôt. J'ai fait une crise d'anorexie. Et je suis descendue très, très bas niveau poids. Et en fait, bon, après, je suis partie directement en saison. Grosse erreur.
Waouh!
Grosse erreur. C'est-à-dire que j'étais à ça d'aller à l'hôpital et je me suis dit, bah tiens, si j'allais travailler un 39 heures avec heure sup pendant 2 mois.
Big brain!
Donc vraiment, Et puis après, j'ai complètement repris les cours et puis à un moment, je me suis rendu compte que, bon, même maintenant, si je remange et que j'ai repris du poids et tout, que je m'endormais en cours. Tout le temps. Constamment. J'étais complètement fatiguée.
Mais t'as eu aucune pause, que ce soit dans ta santé mentale, physique et
émotionnelle.
Émotionnelle et la vie étudiante, quoi. Genre, il y a eu aucune petite pause
Ah bah non, vraiment, enfin, bah j'ai peut-être, tu vois, j'ai fait ma grosse crise, puis après, bon, je suis partie directement en saison, j'ai peut-être eu 2 semaines de battement, tu vois. Mais quand je suis partie en saison, j'étais encore en sous-poids, j'ai commencé à reprendre du poids en saison, vraiment. Mais après, maintenant, avec du recul, je me rends compte que ma saison, elle m'a un peu sauvée aussi, puisque ça m'a vraiment permis de me remettre un peu en forme. Par contre, quand je suis arrivée à la fac et que là, tu vois, ça m'est arrivé avant de m'endormir un petit peu à la fac parce que bon, vas-y, il y a une fois, t'as pas bien dormi, t'es sortie, machin. Mais là, c'était tous les jours, à chaque cours, même à 16h si j'étais en cours, je m'endormais, quoi. Et en plus, maintenant, on est en cours continu en philosophie et je me suis rendu compte que je me foirais, quoi. Je me foirais parce que j'étais incapable de réviser parce qu'il fallait réviser le soir, machin. Et là, ça commençait à aller mieux.
Ouais, bravo.
Mais c'est vrai que là, la cause extérieure, un peu comme Jeanne, ce qu'elle disait, c'est que d'un côté, tu peux dire « c'est pas ma faute ». Mais moi, ce que je ressentais vraiment le plus, c'était la culpabilité. Enfin, le truc de se dire « ok, je peux rien faire ». Je me sens complètement... j'ai aucune main sur le truc, quoi.
Bah, en parlant d'avoir la main sur le truc, je crois que c'était le plus dur. Bon, après, ça, c'est un problème que j'ai dans ma vie en général, mais au moment de mes séjours à l'hôpital, mine de rien, des rendez-vous, de l'opération et tout.
Ça prend du temps, en plus.
Ma mère me grondait premier degré en me disant « tu vas te coucher ». C'est-à-dire qu'en fait, genre, en sortant de mon opération, j'avais un TD de 16h à 18h, je l'avais déjà loupé la veille. Et en fait, avant l'opération, en sortant de l'opération, en salle de réveil et tout, je parlais à mon mec qui était du coup avec moi au moment de l'intervention, enfin pas au moment de l'intervention mais on s'entend,
pas pendant,
qui était à
quoi.
L'hôpital quoi avec moi. Et on était juste en train de parler pour qu'il envoie un mail à ma chargée TD. Je rentre chez moi dans la voiture, ma mère me dit comment ça s'est passé. Je parle que de mon TD parce que je suis en mode, faut absolument que j'y aille, faut que je rende un travail et tout. Et ma daronne est en mode, mais frère, tu es en train de faire une fucking hémorragie, genre ta gueule, va, pardon. Tu es en train de faire une hémorragie,
va te coucher. T'excuses pas, je crois que c'était plutôt bien adapté.
Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots ici.
Si. On est après 22h, on a le droit de dire des gros mots.
Ouais. Bref, voilà.
Mais, tu t'es dit, ça va le faire en fait.
En fait, je me suis pas dit ça va le faire ou ça va pas le faire. Pour moi, c'était pas un problème en soi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pour moi, c'était pas big deal, comme tu dirais. C'était pas...
Comment ça, comme je dirais
Non, mettre des anglicismes un peu partout.
Je fais pas toujours ça, d'accord. Ça va.
Genre juste, en fait, je me suis dit, bah, frère, t'es en L2, tu dois valider ce purée de semestre. J'ai fait un effort, là. Tu dois valider ce semestre et tu vas rater tes examens qui sont la semaine prochaine vu que t'es pas dans l'état. Donc essaye de limiter la casse, quoi. Ouais. Et en fait, ça a suivi. Bah, j'ai fait 2 semaines après où tout le monde bûchait. Moi, j'étais en coma. Je pouvais pas aller en cours. J'étais comme une énorme redescente parce que du coup, j'avais encore la saison dans les fesses. Et il y avait la préparation du podcast, les études. Et moi, en parallèle, je suis bénévole dans une asso. Et je fais des actions, notamment de nuit. Bon, bref, vraiment, je suis juste débile. Mais j'étais morte. Genre, mes 2 semaines de vacances, bah, je les ai fait en plein milieu du mois de novembre. Voilà, voilà.
Mais en fait, ça, c'est un vrai truc. Hein. En vrai, genre... Je sais que c'est un truc, les gens, ils ont du mal à faire ça. Mais parfois, en vrai, c'est pas si con de se dire, OK, là, tu sais quoi, j'ai cours, mais pendant une semaine, je me fais comme des vacances. Ouais, quand on peut vraiment plus. D'accord.
Punaise, d'ailleurs, en parlant de vacances, ça vous dit une petite pause de quelques minutes musicale, en fait. Hein ? Bon, du coup, on vous lance Capital de Chaman et Colibri. Les potes à la compote.
J'prends l'argent du capital, ouais. Les pauvres, je m'emballe. Et que tu peux galérer ça, même ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est le travail. T'en branles pas une, tu grailles pas. Regarde-moi, je me démène à faire des bénéfices sur le système. Yeah, yeah, yeah. Viens pas me dire que tes parents sont morts, que ça t'empêche d'avancer. Moi, mes toilettes sont bouchées depuis 2 heures, ça m'empêche pas de faire du blé. T'es seule à la maison, chargée d'éducation, ton frère qui tourne pas rond. Mon chat est obèse, ça me baisse. Pourtant, moi, je pèse dans le game. Viens pas me dire que t'es gay, tu t'es fait harceler toute ta scolarité, que tu t'es fait rejeter, que t'en as vraiment chié. Tout se transforme en force, mon frère. J'ai du mal à gérer mes thunes, j'galère. Parfois je pars à Madère plutôt qu'en croisière. Période printanière, ça coûte moins cher. Capital, ouais. Les pauvres, je m'emballe. Tu peux galérer ça, mère, ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est le travail. T'en branles pas une, tu grailles pas. Regarde-moi, je me démène à faire des bénéfices sur le système. Yeah, yeah. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, non. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Il suffit d'un effort pour amasser plein de pièces d'or. Pour construire un château fort, se faire appeler l'eau et avoir une Ford. Se promener en caleçon dans l'enceinte de ton habitation. Louis Vuitton, Hermès, Chanel, t'inquiète pas, tu feras sensation. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, non. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, non. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. T'es au chômage, je suis au fromage, t'es à découvert. Je prends mes couverts et je déguste ce que j'ai mérité de plus. Avec mes ventes à mes amis russes. Et faut pas hésiter à s'engraisser sur le dos des autres. Si tu veux pas te faire baiser à la moitié de la côte, écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu pourras remplir ta tirelire. Je prends l'argent du capital, ouais. Les pauvres, je m'emballe. Tu peux galérer ça, mère, ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est le travail. T'en branles pas une, tu grailles pas. Regarde-moi, je me démène à faire des bénéfices sur le système. Je prends l'argent du capital, ouais. Les pauvres, je m'emballe. Tu peux galérer ça, mère, ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est le travail. T'en branles pas une, tu grailles pas. Regarde-moi, je me démène à faire des bénéfices sur le système. Je prends l'argent du capital, ouais. Je m'emballe et que tu peux galérer ça. Mère, ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est le travail. T'en branles pas une, tu grailles pas. Regarde-moi, je me démène à faire des bénéfices sur le système. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, non. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, non. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué.
Ok. Bon, la musique, elle vous a plu ou pas?
Ouais.
Quand même.
J'adore.
Ok.
Bon, après avoir parlé de l'échec pendant quand même de longues minutes, est-ce que ça vous dit qu'on parle des solutions que vous avez trouvées ou des trucs positifs pour gérer ça, pour faire face à la vie, tout simplement, en fait?
Je pense qu'en vrai, moi, mon meilleur conseil, et pourtant, j'arrive pas forcément à le suivre moi-même, hein, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et d'être capable d'introspection. Et même, je voulais vous dire un truc, parce que ça, c'est un truc que je me suis rendu compte quand on a parlé la dernière fois du podcast, de cet épisode-là, où en fait, vous m'avez vraiment fait rendre compte de quelque chose. C'est...
Oh.
Non, mais c'est fou. Non, mais
ok, vas-y,
c'est fou ce
développe,
qui se passe.
Parle de
ah,
nous.
Vraiment.
C'est fou ce qui se passe.
Une déclaration, moi j'adore, vas-y.
Pour les téléspectateurs, plutôt, parce que c'est pas vraiment une télé.
Auditeurs, auditrices.
Pour les auditeurs et les auditrices, on a fait une émission test pour, pour ce premier épisode.
C'est très méta, là, ce que tu nous dis. Mais...
C'est très méta. Et à un moment, on a parlé dans cette émission test de à quel moment on était... En fait, on a aussi parlé ici, on en a parlé au tout début de l'épisode. De à quel moment on avait de l'angoisse, de l'échec. Et à ce moment-là, je vous avais dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que moi, c'était surtout avant, au moment des révisions. Et qu'en fait, mon gros problème, dans le fond, c'était la culpabilité de ne pas réviser. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire qu'à ce moment-là, tu vois, j'ai mis le doigt sur un truc, donc typiquement la culpabilité. Mm. Et donc, du coup, aussi l'image que j'ai de moi dans mes capacités à être disciplinée, d'avoir l'énergie, la discipline de faire les choses. Et je crois que pour beaucoup de gens, c'est vraiment essentiel d'avoir de l'introspection, parce qu'en fait, si tu commences à te dire, bon, ok, là, ça va pas. Là, j'ai de l'échec, là, clairement, j'ai des notes qui sortent qui sont pas bonnes. La plupart des gens, moi y compris, et vous aussi, je pense, on s'est déjà dit, ok, bah, c'est quoi ce que je vais faire, c'est que je vais me lever à 6h tous les matins, je vais me coucher à 23h tous les soirs, je vais boire le max de café, et ça va passer. Parce que ouais, j'ai passé mon temps à bosser. Mais la vérité, c'est que ça marche pour une minorité de personnes incroyables. Et en fait, le mieux, c'est juste de vraiment avoir un plan d'action, mais qui est adapté à soi, en fait. Qui vraiment identifie ce que c'est les problèmes. Bah, typiquement, si c'est comme moi ou comme Jeanne avec ses problèmes de santé, le fait d'être extrêmement fatigué, bah, de se dire, ok, bah, comme on a dit juste avant, en fait, par exemple, se dire, bah, écoute, cette semaine, je ne vais pas en cours. Cette semaine, je me fais des vraies vacances parce qu'en fait, j'en ai besoin à ce moment-là. Ou alors là, ce cours-là, bah, en fait, il n'est pas si important, je peux le rattraper, je peux dormir ce matin. Ce genre de choses, par exemple.
Ça fait penser à ce que tu dis, un autre truc, genre, bah, juste apprendre à dire non. Mmh. Parce que quand tu es en période de révision, quand tu es à la fac, bon, après, ça, c'est un problème que j'ai aussi, dire non. Mais c'est hyper simple de dire oui à des invitations parce qu'on n'a plus de cours, en fait.
Oui.
Donc, du coup, tu ne sais pas comment t'organiser. Tu es en mode, ok, les partiels, c'est dans un mois, c'est dans 3 semaines, c'est dans 15 jours. Oh mais je suis large, oh non mais cette notion je la connais, non mais ce chapitre, cette matière, bla 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 bla. Et t'as rapidement ce truc de oh viens on va à la BU, oh viens on révise chez moi, oh viens on se voit de ta 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 ta, alors que personne ne fonctionne de la même manière. Genre je vais utiliser une illustration hyper simple, moi je révise le matin. Genre vraiment, moi à partir de 18h, il n'y a plus rien qui rentre dans mon crâne,
ouais.
Donc je révise le matin. Mon mec c'est l'inverse, alors que pourtant on est dans la même filière, on est même dans le même amphi, dans les mêmes TD, genre bon bref. Bah, juste on révise pas ensemble en fait. Ou alors quand on révise ensemble, bah, on fait en sorte que ce soit au même moment, donc de 11h à 14h, et après c'est ciao, et faut l'accepter. Et on accepte et on se dit non, lui comme moi, bah non, moi j'arrive pas à réviser le matin, moi j'arrive pas à réviser le soir, et voilà.
S'écouter les gars, s'écouter, hein.
Mais je pense qu'il y a aussi vraiment le truc de. Bah, t'as raison, genre, ne serait-ce que le moment où tu dois travailler, tu vois. Moi j'ai énormément de mal avec ça, parce que avant j'étais quelqu'un qui travaillait vraiment, mais alors vraiment le soir. Sauf que, genre, je sais pas, peut-être de minuit à 2h, tu vois. Alors que maintenant, le soir, faut que je dorme. Vraiment. Et du coup, genre, je suis perdue. Tu sais, je suis là, je me lève le matin, j'arrive pas à bosser parce que j'ai jamais bossé le matin de toute ma vie, genre. Et maintenant, bah, faut que je trouve un nouveau truc, tu vois. Mais c'est ça aussi le bail de faut se connaître, en fait. Mm. Faut vraiment identifier où sont les problèmes.
Et accepter ses besoins.
Oui, et d'ailleurs, mais c'est ça, en fait, c'est. Tu parles d'introspection, mais en fait, c'est ça, c'est comprendre déjà les raisons de pourquoi on ressent de l'échec. Ou pourquoi là on est en situation d'échec, pour après pouvoir supprimer l'idée d'échec en fait, de est-ce que l'échec c'est mal et comment ça peut devenir positif, tu vois. Donc en essayant de le comprendre et d'apprendre et voilà, se remettre en cause quoi. Et aussi se dire juste que, hey, les gars, c'est pas une fin en soi en fait. On va pas mourir de cet échec normalement, tu vois. Et là, je parle vraiment d'échecs scolaires, des partiels. Mais c'est OK, en fait. C'est la phrase la plus bateau de l'émission, mais voilà, c'est OK, les gars. Voilà, prenez soin de votre santé mentale, en fait.
Mais pour rebondir là-dessus, justement, un truc qui est hyper important à essayer de comprendre et de concevoir, c'est apprendre à rebondir face à l'échec pour justement ne pas le percevoir comme un échec. Typiquement, j'ai demandé deux fois une formation, deux années de SUIP, une fois avec Parcoursup, une fois à la fin de ma L1. J'ai été refusée deux fois de suite. Bah, la deuxième fois que j'ai été refusée, je l'ai carrément plus acceptée. Tout simplement parce que la première année, j'ai demandé juste avec un dossier scolaire. Donc justement, j'ai cette étiquette de la bonne élève. Du coup, bah, première fois de ma vie, oh purée, ça ne suffit pas.
Quoi ? Merde alors.
Attends, on entre dans le supérieur. Genre le vrai monde et tout, quoi.
Oh là là là. Et j'ai redemandé la formation. Après avoir passé une année à bûcher pour la formation, à avoir tout mis en place pour avoir les outils et bah, vraiment coller au profil qu'ils attendent. Et on m'a refusé. Et bah, je me suis dit, bah, j'ai tout fait en fait. Donc c'était chiant. Mais j'avais assez confiance en moi pour me dire, bah, j'ai appris cette année. Je sais que c'est vraiment ce que je veux faire. Bah, je vais tout mettre en place pour arriver au but final sans forcément passer par cette formation du coup. Mais du coup, ouais, vraiment apprendre à avoir assez confiance en soi, c'est dur. Hein. Vraiment, je dis ça comme si c'était acquis. La confiance en soi, c'est jamais acquis.
Oula, non.
Mais réussir à se dire que bah, j'en suis capable, en fait. Genre.
Après, je pense que, en soi, la confiance en soi, ça peut pas venir que des études. Alors, oui, ça joue, hein, bien sûr, on sait tous. Mais, enfin, toi, t'es un bon exemple, en vrai, Jeanne, parce que t'es hyper.
Hyper active.
T'es hyper impliquée, quoi, dans plein de choses, ne serait-ce que là, bon, t'es avec nous pour le podcast. Mais je crois qu'il faut aussi, tu vois, on parle des techniques finalement, pour des solutions face à l'échec. En fait, c'est aussi bah, faire d'autres choses, quoi.
Exactement.
De voir qu'on n'est pas fait que pour être des robots en classe, quoi. On a d'autres talents.
Et au-delà de l'échec à la fac, même si c'est des échecs dans deux disciplines, genre je pense aux sportifs, aux gens qui font de la musique.
Comme moi, tu veux dire, les grands sportifs.
Exactement. Ou je sais pas, les gens qui font du son. Genre, il y a plein de gens de notre âge qui font du son, qui ont le courage de poster des trucs sur SoundCloud ou même de payer une licence pour poster ça sur Spotify et ça floppe, quoi. Enfin, faut dire les termes, ça floppe.
J'allais dire comme nos copains du Capital, mais eux, ils n'ont pas floppé.
Non, eux, ils
parce que
percent.
Je ne savais pas où t'allais, en fait. Mais effectivement, pas comme les copains du Capital, alors.
Bref, bah, ce n'est pas une fin en soi. Et ces gens-là, bah, ils font ça, mais ils font aussi plein de choses à côté.
Et très bien que tu le dises, Jeanne, puisque là, on va écouter un autre témoignage d'un étudiant de la faculté de Nantes qui nous parle de trouver d'autres domaines et d'autres choses qui nous intéressent pour affronter les échecs.
Ok, alors présente-toi.
Alors moi je suis étudiant en L3 de philo et j'ai 22 ans.
Est-ce que t'as déjà connu une situation d'échec ?
Ouais, j'en ai connu deux. Une avec Parcoursup où j'ai pas été accepté là où je voulais. Du coup, bah voilà, premier échec on va dire depuis que j'étais tout petit. Et le deuxième, c'était en droit où j'ai fait deux années de droit. Et la deuxième s'est plutôt mal passée avec le Covid et le fait que j'aimais pas du tout ça. Donc j'ai complètement arrêté la fac pendant 6 mois. Voilà.
Et quelle était ta vision de l'échec pendant que tu l'as vécu et maintenant comment tu le vois ?
Et bah sur le moment j'étais pas bien. La première fois ça allait parce que j'étais avec mes parents. La deuxième fois c'était moins drôle. J'ai un peu touché le fond. Mais maintenant ça m'a servi un peu à donner du sens à ce que je fais et à comprendre que j'arrive pas à faire des trucs si je kiffe pas ça, quoi.
Et du coup, est-ce que maintenant, tu as quand même une peur de l'échec ou tu penses avoir réglé ce problème-là et voir la vie juste comme des apprentissages ?
Bah, pour l'instant, je n'ai pas rééchoué vraiment depuis parce que je fais des trucs que j'aime bien, donc je m'y donne à fond. Donc même si je ne réussis pas forcément à fond, bah, au moins je suis content de ce que je fais et je réussis. Donc disons que ça m'a servi.
Et est-ce que tu aurais un mot d'espoir à ceux qui sont en situation d'échec en ce moment ?
Et bah, trouver du sens à ce que vous faites. Et s'il n'y en a pas, cherchez-le ailleurs. Voilà.
Ok, merci.
Bon, bah, je pense que la fin de ce témoignage explique parfaitement les solutions techniques et comment faire face. Voilà, j'ai rien à dire de plus en fait.
On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission avec une petite lecture de témoignages Reddit. Et nos petits J'adore. Commentaires sur cela.
Ça me touche, c'est l'émission qui parle de nous comme de vous, de notre quotidien comme du vôtre, de ce qui nous prend la tête et prend la vôtre.
Donc maintenant, on reprend sur ce concept que j'ai emprunté aux Américains. Je dis la vérité. Je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé le concept, mais en tout cas, c'est, je crois, les plus connus sur le concept, qui sont Two Hot Takes, c'est un podcast. Je crédite, parce que je suis quelqu'un de bien.
Quand même.
Exactement. Donc là, j'ai quelques histoires sous les yeux que je vais vous lire.
Je ne connais pas du tout le principe, donc j'ai trop hâte.
j'ai quelques histoires de Reddit. J'ai des histoires américaines et des histoires françaises que je me suis amusée à traduire. Comme, yes. Comme une femme qui parle anglais, quoi.
La prouveuse.
Mais bien sûr. Mais c'est pour ça, faut bien être fière de soi des fois.
Ah mais oui,
c'est comme ça que je supporte l'échec. Donc j'en ai quelques-unes, on n'aura pas le temps de toutes les voir. Donc je vais vous présenter quelques titres. Et vous allez me dire ce que vous voulez entendre. Donc j'ai une qui est plutôt marrante. Donc aujourd'hui, on va surtout regarder des Am I the Asshole. Donc est-ce que je suis le trou du cul? Et après, on dira si on pense que la personne est le trou du cul. Donc, grosso modo, là, c'est « Est-ce que je suis le trou du cul pour avoir crié sur mon partenaire après qu'il m'ait séduit et que du coup, j'ai raté mon examen ?»
Waouh, ok, donc en gros, t'as échoué un examen et tu mets ça, tu mets la responsabilité sur le dos de quelqu'un qui t'a séduite et du coup, t'étais...
T'es déjà dans le commentaire, là, Jeanne.
Ok, pardon.
T'es déjà dans le commentaire.
En fait, j'essaye de traduire.
Parce que, oui, voilà, moi, j'attendais que tu me traduises le truc, Jeanne.
Oui, parce que je te voyais, t'avais pas l'air de voilà.
Et alors, sinon, oui. Attends, et sinon, j'ai. Est-ce que je suis trop du cul pour facturer à, mes camarades de classe des fiches de révision que j'ai effectuées?
Waouh!
Vous me dites laquelle vous voulez.
Alors, la première, ça parle d'amour, on est d'accord?
Même plus que ça. Pas mal de sexe, quoi.
Bah alors, j'ai envie de dire oui, c'est totalement compréhensible. Voilà.
Ah, donc ça, tu
mais
veux dire,
mais il faut lire l'histoire avant de commenter. Écoutez, moi je vous demande juste de choisir.
On apprend le principe en même temps, yes. Vas-y, bah, la première, c'est cool.
Et toi, Jeanne, tu veux la première aussi?
Ça me va.
Ok, il faut que je sorte ma traduction, quoi. J'ai une semaine très stressante. Du début d'un nouvel emploi à la semaine d'examen, j'ai à peine réussi mes études ce trimestre. Hier soir, en sortant du travail, j'ai dit à mon fiancé que je devais préparer mon examen final pour un de mes cours. Après avoir nourri le bébé, ils ont un bébé quand même, et m'être installée, je lui ai demandé d'apporter mon sac à dos à l'étage afin que je puisse me lancer dans cet examen spécifiquement. Juste au moment où j'étais sur le point de sortir mon ordinateur portable de mon sac, mon partenaire a décidé que c'était le moment approprié pour tenter un moment sexy. J'étais hésitante et je lui ai dit à plusieurs reprises que je dois faire mes devoirs et nous n'avons pas le temps en ce moment. Je lui ai aussi dit qu'avoir des relations sexuelles n'était pas une bonne idée car je suis toujours extrêmement fatiguée et je m'endors après. Pour clarifier, je n'ai jamais voulu dire non et du coup je ne l'ai pas dit et notre intimité était consentie. Il était persistant et après quelques minutes, j'ai cédé à mes envies et on a couché ensemble. Comme d'habitude, une fois que nous avons fini, j'étais très fatiguée et je me suis endormie peu de temps après. Avance rapide jusqu'à ce soir. J'ai finalement pu m'asseoir et faire mon examen pour constater que le devoir était verrouillé à minuit hier soir. J'étais immédiatement furieuse, je mets les deux parce qu'il n'y a pas de genre... Car j'aurais pu le faire à temps, mais j'ai décidé de ne rien dire et de faire mon examen pour mon autre cours à la place. Après avoir commencé ce devoir, qui avait une limite de temps, il est venu me parler, je lui criais dessus en chuchotant, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, crier dessus en chuchotant, et j'ai fait des gestes agressifs indiquant de me laisser tranquille. Quand j'ai terminé cet examen, il est venu vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas, parce que j'avais l'air stressée. J'ai dit « Je ne pense pas que tu veuilles savoir ». Il a ensuite demandé pourquoi et j'ai dit « Parce que ça va te blesser ». Il semblait confus et par colère et frustration, je me suis déchaînée en m'exclamant que j'avais raté mon examen à cause de lui, que j'avais perdu du temps à étudier parce qu'il n'avait pas pu la garder dans son pantalon. Il s'est énervé et je lui ai dit qu'il ne devrait pas se victimiser ici parce que c'est moi qui ai échoué mon examen final. J'admets que je n'étais pas au courant de la date limite avant aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça devrait avoir de l'importance puisque ça aurait été fait s'il n'avait pas fait ça. De plus, il est important que vous sachiez que j'ai déjà fixé des limites à plusieurs reprises concernant mes études et le fait qu'il me laisse seule pendant cette période.
Alors,
est-ce que c'est le trou du cul?
Bah alors, le mec, c'est le trou du cul. C'est un trou du cul, le mec.
La question, c'est ça. Pour toi, qui est le trou du cul?
Ah, ouais, mais le mec.
C'est qui le trou du cul?
Mais le mec, elle a expliqué. C'est une meuf, oui?
En fait, on ne sait pas.
Ok, bon, la personne a expliqué tout de A à Z. J'ai précisé plusieurs fois que j'avais des examens. J'ai précisé que après avoir des relations sexuelles, je dormais. J'ai précisé que je voulais pas parce que j'avais un examen. What the fuck? Déjà, elle dit ouais, c'est consenti, machin.
ouais, ok, c'est un peu bizarre pour moi, mais le mec là, mais c'est pas possible. Je suis désolée, mais là, ça me choque. Genre, t'es en couple, je sais pas, t'écoutes l'autre en fait. That's all. Genre, on te dit non parce que mon futur est en jeu. Genre, c'est pas. Ah ouais, mais quand même, là maintenant, j'ai envie, on peut le faire. Non, mais on pourra le faire toute notre vie si on veut. Cet examen-là, il est now. Voilà, c'est. Je drop de mic. Et
drop ouais. de mic. C'est fou parce que je suis pas du tout d'accord avec toi.
What?
Oh, j'adore.
Oh my god!
Vas-y, expose ton point de
attends,
vue.
Attends, juste, est-ce que moi, Jeanne. Est-ce que Jeanne, tu peux juste dire avant que je commence.
Non, non, justement,
qui tu penses qui est le asshole?
Parce que moi, pour l'instant, j'ai des arguments pour les deux. Moi, je suis 50-50. Je suis étudiante en droit, je rappelle. Hein.
Mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Bon, déjà, parce que moi, à la base, c'est vrai que j'avais eu un petit doute sur la partie consentie, quoi.
Ouais, ça, par contre,
quand tu lis la manière dont elle le dit, ça a l'air d'être vraiment consenti. En fait, elle a l'air de dire que...
Elle a tellement envie de sexer que... voilà, quoi.
En fait, elle a l'air de dire qu'elle avait très envie et qu'elle ne voulait pas pour les études et que finalement, elle a, je cite, « cédé à ses envies ».
Oui.
À ses envies à elle.
Mmh.
Donc, en soi, moi, je trouve que c'est absolument consentant.
Oui, déjà.
Mais justement... Elle pouvait toujours dire non. C'est-à-dire qu'elle a cédé à ses envies. Donc, elle pouvait dire « Bah non, casse-toi. » Moi, j'ai déjà fait, hein. De dire « Bah non, c'est mort, je dois réviser, tu vois. » et puis voilà, c'est tout. Et je veux dire, en plus, à la fin, je suis désolée, mais j'admets que je n'étais pas au courant de la date limite avant aujourd'hui.
Ouais, ça par contre.
Non, ça, ouais, ça bon, déjà, renseigne-toi, c'est sûr.
Mais surtout, prends tes responsabilités, poteau. Enfin, je veux dire, c'est ton examen à toi. Ton copain, c'est pas son examen à lui.
Ok, mais moi, en fait, j'ai envie de faire un exemple, mais de merde. Là, je vais faire un exemple
vas-y,
trop nul.
On t'écoute.
Mais genre, c'est comme si on te met au nez un gâteau super bon. Je sais pas, j'arrive pas à créer mon exemple. Mais en mode, je sais pas, on te fait sentir un gâteau, un truc que t'aimes trop, tu vois, et t'es en mode, bah non, mais je peux pas le manger maintenant, tu vois, mais j'ai très envie. Genre, la personne, enfin, je sais pas comment dire. Non, en vrai, ça marche pas.
Mais du coup, on est d'accord que c'est ta responsabilité.
Ouais.
Parce que regarde, t'es là.
Non, non, alors. Oui, c'est. Je pense que c'est la responsabilité des deux. En fait, il y a un truc.
Moi, je crois pas. Pas forcément.
Mais moi, je pense que l'autre, il est là pour t'aider aussi.
Ah oui,
et pour te cadrer dans tes pulsions, si on dit les termes, tu vois.
Non, mais pas t'émoustiller, quoi. Genre, pas arriver déjà, et pointer le bout de son nez pour t'exciter alors que t'as expliqué que non.
Déjà, oui, mais imaginons la personne a été moustillée tous. Genre, si tu dis ah, j'ai vraiment trop envie, mais genre là, je dois taffer. Genre la personne elle est pas censée faire ah ouais et toi t'es sûre et tout machin genre non juste tu fais stop genre ok je te laisse tranquille ma chérie ou mon chéri fais ta vie fais ton exam gère et après on ken.
Ok j'ai un bête d'argument là je t'ai écouté et en même temps mon cerveau il était en train de faire plou 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 chercher un argument de ouf. Ok t'es là t'es en train de réviser ok et tes potes ils t'envoient un message viens on sort ok toi tu dis non je suis en train de réviser et tes potes parce que c'est des potes qui ont envie de sortir, ils arrivent à te convaincre de sortir. Tu dirais la même chose ou pas? Parce qu'il me semble que c'est globalement la même chose okay. et que t'as pas à être énervé contre tes potes, ça reste ton choix. En fait, t'es un adulte. Déjà, elle a un bébé. Si t'as un bébé, t'es censé prendre tes responsabilités, en fait.
Alors moi, je suis peut-être extrême hein, sur ce sujet-là, mais moi j'ai envie de dire, bon là je vais un peu abuser quand même, mais change de pote. Non, mais, genre, les gens, enfin, je sais pas moi,
non, je comprends.
Si mes potes, ils expriment des trucs qu'ils ont besoin de faire, et moi j'ai trop envie de faire des trucs avec eux, je leur propose, et qu'ils me font, bah, j'ai trop envie, mais il faut que je fasse ça pour... mon bien, si c'est par exemple, je sais pas, de la santé mentale, pour mon bien de réussite, pour voilà, bah, je vais faire ok, bah vas-y, mais par contre, on se voit vite, hein, s'il te plaît, parce que voilà.
Non, mais là, c'est vrai si jamais la personne en face, elle te dit par exemple non, quoi. Genre par exemple, vas-y, on n'est plus potes si tu viens pas. Sauf que là, je parle d'un truc où en fait, il n'y aura aucune incidence, en fait, donc ça reste seulement ton choix.
Ouais, c'était juste pour,
tu vois.
C'était juste pour illustrer l'idée de choix libre arbitre.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est qu'en fait, si tu sors, en fait, c'est que t'as décidé de sortir au lieu de travailler et ça peut être la faute de personne, en fait, tu vois.
Mais je pense que si la personne a prévenu, ouais, mais ok, oui, ok, je comprends maintenant. Mais après, si tu préviens la personne à l'avance et qu'elle te le fait quand même mais que toi t'avais envie, ouais, bon, tu sais quoi, on dit que les deux ils ont tort et on demande aux gens qui nous écoutent de dire leur avis. Parce
après,
que vraiment,
je t'accorde que le rôle des potes n'est pas le même que celui de ton partenaire avec qui tu vis et avec qui t'as un bébé.
Ça te choque,
t'as trop envie
d'insister
ouais,
sur
moi, c'est le bébé.
Bébé,
genre, si je me dis, c'est pas comme nous, tu vois, nous on est un peu des bébés adultes. Eux, c'est des adultes, genre, ils ont un bébé.
Des adultes avec un bébé ou des bébés adultes
Okay. Est-ce que Jeanne, t'as quelque chose à dire sur cette
histoire? J'avoue, mais en fait, vous avez tout dit, mais je suis un peu d'accord dans les deux sens. Donc, moi, j'estime que la partenaire est un soutien, quoi. Donc,
mais ça, genre, je suis d'accord, en soi.
Donc, ouais. Tu vois, donc, si c'est vraiment ton partenaire, la personne est censée être au courant que l'examen, c'est important pour toi, que ce soit ce soir, le lendemain ou voilà. Quoi. Si tu dis, j'ai envie de passer du temps sur mon examen, que ce soit pour réviser ou pour le passer, le partenaire est censé respecter ce choix. La partenaire, pardon. Mais à contrario, quand c'est toi qui finis par céder, pour moi, t'as aucun droit de reprocher à l'autre de t'avoir excité, tu vois. Genre, c'est toi qui as cédé. Lui, il a pas rentré dans ta sphère intime pour te forcer. Après, il y a toujours cette idée de consentement. L'histoire me perturbe un petit peu. Ouais. Parce que finir par dire oui, pour moi, c'est pas consentir. Mais bon, c'est encore autre chose.
Mais je crois que dès le début, elle était chaude, en fait. C'est ça, le truc. Mmh. Okay. C'est que dans la manière dont elle le dit, je pense qu'il y a de ça.
C'est pareil. En anglais, c'est peut-être...
Après, voilà, le problème, c'est qu'en anglais, c'est dit pas forcément de la même manière.
Bah écoute, ça mérite une petite dissertation. On se redonnera les résultats la prochaine fois. Le mois prochain, par exemple. Ouais, parce que du coup, c'est la fin de notre émission. On vous souhaite on vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt, je sais pas, à la prochaine, ouais.
Bah, dans un mois en fait.
Ouais, c'est ça. Prenez soin de vous, bisous.